Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Mathilde Wagman, Denis Ramon, Antoine Ravon, Marianne Chassor et Adèle Van Rett. À la lecture des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation, Olivier Guérin, avec à la prise de son aujourd'hui, Dophar Guéride.
Voulez-vous danser, grand-mère ? Voulez-vous danser ce soir avec moi ?
Voulez-vous danser avec moi ?
Je sais pas danser et je m'en fous.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Troisième temps aujourd'hui de notre semaine consacrée à la danse. Insaisissable, fugace, légère, les pirouettes, les entrechats, les sauts et les chutes, les rebonds et les envols, la danse semble glisser entre les doigts et entre les concepts. Elle se déploie en mesure sur le rythme de la musique et elle se déplie dans le lieu de la scène, dans le temps et dans l'espace. Tout l'art de la danse, c'est de bien se mouvoir. Enfin plutôt, c'est bien l'art de se mouvoir, d'une forme à l'autre, d'un pas à l'autre. Pas dans une succession de figures, de poses arrêtées, la danse non glisse de l'une à l'autre. Elle se fond, elle fusionne, et pas non plus sur une surface lisse et plate, mais dans l'ampleur et dans la profondeur. Oui, la danse, ce sont d'abord des mouvements, dans le temps et dans l'espace, encore. Et si une manière d'aborder la danse ne serait pas alors celle de parler de ce mouvement que seule elle peut initier, qu'elle seule peut effectuer ? Réponse aujourd'hui avec Anne Boissière. Pas inutile d'insister sur l'idée que la danse fait partie de la vie comme le reste. La preuve en est sa permanence sous de multiples formes. Tout ce jeu des corps dans l'espace et le temps. Quand je construis une chorégraphie en tirant à pile ou face, c'est-à-dire avec l'aide du hasard, je puise mes ressources dans ce jeu qui n'est pas le fruit de ma volonté, mais une énergie et une loi auxquelles je me soumets. Pour certains, il est inhumain et mécanique de créer une danse en tirant à pile ou face au lieu de se ronger les ongles, de se taper la tête contre les murs ou de pêcher des idées dans un vieux carnet. En composant de cette manière, je me sens en contact avec des ressources naturelles bien plus vastes que mon inventivité personnelle, bien plus universelles et humaines que les habitudes propres à ma pratique, et naissant organiquement d'un fond commun, d'impulsions dynamiques.
Dès le début de mon apprentissage, j'ai su comment, avec une moindre dépense d'énergie, on pouvait apprendre un enchaînement de pas, en le figurant gestuel, mais d'une gestuelle qui ne s'inscrit que dans les mains. Et on dit, tant qu'un danseur ne le sait pas avec ses mains, il ne l'a pas vraiment intégré dans son corps. Donc on avait comme ça saut de chat, c'est ça, cabriole seconde, brisé en descendant, entre chat quatre de volée, passé, cabriole ouverte devant, fermée. Cinquième, contre-temps passé.
Tomber, couper, jeter. Voilà. Bon, et là, effectivement, je pourrais, sans parler, devant Romain, faire ce geste. Et je crois qu'il comprendrait ce que je suis en train de lui montrer.
Oui.
Ouais. Et j'ai vu ça aussi dans les classes de Merce Cunningham. Lorsque malheureusement il était très handicapé et il ne pouvait pas, il était dans son fauteuil et il indiquait tout, ou avec des petits mouvements de coude, d'épaule ou de poignet. Voilà, c'est presque un langage des signes.
Bonjour Anne Boissière.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université de Lille 3, où vous enseignez l'esthétique et la philosophie de l'art. Vous êtes membre du Centre d'études des arts contemporains. On peut signaler que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont trait à la danse, donc l'auteur de Musique Mouvement paru cette année aux éditions Manutius. Vous avez coédité avec Mathieu Duplé Vie, Symbole, Mouvement, Suzanne Langer et la danse, disponible aux éditions de L'Incidence. Et enfin, vous avez codirigé avec Catherine Kinsler l'ouvrage collectif « Approche philosophique du geste dansé, de l'improvisation à la performance » aux presses universitaires du Septentrion. Alors, on vient d'entendre deux choses. Enfin, j'ai lu un article « L'art impertinent » qui date de 1955 de Merce Cunningham. Et dans cet article, Merce Cunningham tient à insister sur le fait que la danse fasse partie de la vie. Il en veut pour preuve, je cite, « tout ce jeu des corps dans l'espace et dans le temps ». La danse semble ainsi désigner deux types de mouvements, Anne Boisser. D'un côté, le mouvement physique qui se déplie dans l'espace, que l'on peut voir, un déplacement observable en fait, et de l'autre, un mouvement qui ne serait pas un déplacement, mais un mouvement, on va dire, plus vital. C'est pour ça que Merce Cunningham, d'ailleurs, parle du fait que la danse fasse partie de la vie. Et c'est aussi cette distinction qu'on retrouve d'une certaine manière dans l'archive qu'on a entendue. C'était une archive de l'Atelier Intérieur, une émission diffusée sur France Culture en décembre 2013, l'émission d'Aurélie Charron, dans laquelle le danseur Jean Guizry expliquait que l'on sait danser quand le mouvement est en fait plus contenu, quand il tient dans les mains, quand il est presque suggéré en langage des signes. Alors Anne Boissière, il y aurait donc deux types de mouvements dans la danse. D'un côté, le mouvement qui se déploie clairement dans l'espace et un autre type de mouvement. Comment véritablement définir cet autre type de mouvement? Est-ce que c'est un mouvement vital, comme dit Merce Cunningham, ou plutôt un langage des signes, comme dirait Jean Guizry?
Je crois qu'on peut tout de suite effectivement dire que la danse est portée par plusieurs types de mouvements. Effectivement, le mouvement corporel, hein, mais le mouvement corporel est toujours un mouvement qui est emmené, emporté, vécu aussi par un être qui se déploie avec ses affects, avec ses sentiments, avec éventuellement même son intelligence. Et je pense en effet qu'il est très important de distinguer le mouvement artistique tel qu'il est travaillé par des gens qui ont une compétence spécifique. Même si cette compétence, au moment où elle se déploie dans le spectacle, elle est souvent en quelque sorte mise en retrait en tant qu'effort et technicité. Mais il y a aussi la danse telle qu'elle se manifeste, si je puis dire, spontanément chez des gens qui, justement, ne sont pas des techniciens de la danse, ne sont pas des artistes forcément, mais qui portent en eux la danse comme un rapport au monde, comme un être au monde, et un être au monde qui permet probablement, on va dire, de manifester des... Alors, je suis un petit peu réservée avec le terme d'affect, le terme de sentiment aussi est très, peut-être trop lourd, trop connoté, mais en tous les cas, on va dire une dynamique qui fait que, bien souvent, effectivement, les mouvements dansés, dans ce qu'ils ont de plus spontané, se manifestent peut-être dans des moments où on éprouve une sorte de dilatation, de joie, enfin quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'expansion. Et ça me semble intéressant de voir que à partir du moment où la danse a acquis son autonomie, c'est-à-dire au tournant du XXe siècle.
Avec l'apparition de la danse contemporaine, la danse moderne et la danse contemporaine.
Voilà, enfin... Qui correspond effectivement à un moment, je crois, de remaniement du rapport entre les arts de manière beaucoup plus générale. Enfin, moi, j'appréhende cette émergence de la danse libre comme le moment d'un déplacement des frontières entre les arts qui, effectivement, ouvre en quelque sorte un espace pour la danse libre. Mais cette danse libre, elle naît en même temps que l'abstraction en peinture, elle naît en même temps que beaucoup de transformations qui opèrent en musique. Et je pense que c'est important de resituer cette émergence dans une réflexion qui interpelle le rapport entre les arts. Voilà.
Mais la danse, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la danse mobilise deux sortes de mouvements. Un mouvement, en fait, qu'on va dire qui serait de l'ordre du déplacement dans l'espace. Et de l'autre côté, un mouvement qui serait plus de l'ordre de la dynamique. Vous avez employé ce terme, c'est aussi un terme de Merce Cunningham. Mais à quoi correspond véritablement, en fait, ce mouvement qui ne se déploierait pas dans l'espace, qui ne serait pas observable? Est-ce que c'est le mouvement de la vie? Est-ce que c'est le mouvement temporel qui serait opposé à la dimension spatiale? Et le paradoxe, c'est comment, en fait, la danse, qui est d'abord un art visible, peut se déployer dans un espace, peut avoir un mouvement en fait qui n'a rien de spatial. Comment on peut penser en fait le mouvement de la danse indépendamment de l'espace dans lequel elle se déploie?
Je pense qu'il y a quand même toujours de l'espace. Simplement, il faut retravailler la question de l'espace pour comprendre effectivement ce type de mouvement que vous évoquez et qu'on saisit probablement si on se rattache à ce qu'on va appeler, alors le terme là aussi est un peu difficile et un peu ambivalent, mais on va dire du vécu. C'est-à-dire que il y a une corporéité, il y a un rapport corporel qui se noue pour le danseur ou pour celui qui est dans le mouvement et qui, bien sûr, est tout à fait différent de celui que l'on peut observer de l'extérieur. Et je pense que la philosophie a eu tendance à, chercher à appréhender le mouvement, disons, de l'extérieur, d'une façon qui est tout à fait d'ailleurs compréhensible. Et l'effort de certains théoriciens, philosophes, peut-être déjà d'ailleurs Bergson, c'est justement d'essayer de nous donner à comprendre ce qui est très très difficile, le mouvement de l'intérieur, c'est-à-dire en des termes qu'on va appeler vécu, mais au sens, très, à la fois très général et très, si je puis dire, intime de cette notion de vécu.
C'est à propos des paradoxes de Zénon d'Élée que Bergson, vous venez de le citer, donc je le précise, dit qu'il y a une confusion entre le mouvement d'un mobile, sa mobilité, l'acte, et de l'autre, l'espace parcouru par ce même mobile. Finalement, la danse nous permettrait de penser l'émanation du mouvement, en fait, le mouvement de l'intérieur, l'acte en lui-même. Et en fait, finalement, c'est là où on se détache de l'espace, on va dire, dépliable de la scène.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'espace, c'est à la fois l'espace corporel, hein, c'est l'espace effectivement de la scène. Alors, il est peut-être un peu arbitraire de séparer ces deux types d'espace, puisque la spatialité, c'est avant tout un rapport. Et puis, il y a un espace, je pense, plus difficile à appréhender, et qui est lié à ce que moi j'appelle aussi suite à la réflexion d'Erwin Strauss, qui a été aussi beaucoup reprise par le philosophe Henri Maldinet, ce qu'il faut appeler le sentir, qui n'est ni le sentiment, ni l'émotion, c'est un être au monde.
Est-ce que vous pouvez préciser, préciser cette notion de sentir, mais déjà nous dire qui est Erwin Strauss, qui est un philosophe peu connu, qui n'est pas philosophe d'ailleurs, qui est psychologue.
Alors Erwin Strauss, oui, c'est un psychologue, psychiatre, qui a ce site particulier qu'il s'est rattaché comme quelques autres avec lui, et notamment Ludwig Binswanger et Eugène Minkowski, au champ philosophique. Et pour ce qui est d'Erwin Strauss, à la pensée à la fois surtout de Husserl, à vrai dire. Et l'idée d'Erwin Strauss, qui est tout à fait intéressante, c'est justement de réfléchir directement à la question du mouvement et d'essayer de se dégager, disons, d'une tradition héritière de la philosophie cartésienne, qui tend justement, selon lui, et je pense qu'il a raison, à séparer de façon stricte et arbitraire le mouvement corporel et puis un mouvement qui serait plus, disons, de l'ordre de l'âme ou un mouvement psychique. Et donc, le travail d'Erwin Strauss, le geste qui est le sien est un geste phénoménologique, c'est effectivement de montrer qu'il y a des types de mouvements qui doivent être pensés sous le mode de la spontanéité. C'est ce qu'il appelle un se mouvoir. Voilà. Et que cette énergie du se mouvoir, elle décrit donc les modalités d'un être au monde, qui d'ailleurs n'est pas la spécificité uniquement pour lui de l'être humain, mais qui appartient déjà à l'animal. Hein. Et c'est cet être au monde que Strauss essaie de penser avec le mouvement et qu'il va alors déployer, dont il va déployer certaines modalités dans un texte qui est tout à fait intéressant et qu'il écrit en 1930, mais qui est aussi assez, si je puis dire, atypique de ce qu'il a pu écrire par ailleurs et qui s'intitule « Les formes du spatial ».
« Les formes du spatial » d'Erwin Strauss, je vais en lire un extrait. La suspension de la tension sujet-objet qui s'opère à travers la danse entière jusqu'à l'extase n'est pas le vécu d'une dissolution du sujet, mais celui d'un devenir un. C'est pourquoi il a besoin avant tout de la musique, qui seule donne à l'espace un mouvement propre auquel le danseur peut prendre part. Ce dernier est introduit et emporté dans le mouvement. Il devient membre d'un mouvement d'ensemble qui saisit harmoniquement l'espace, l'autre et lui-même. Dans la légende d'Orphée, les hommes et les animaux, les arbres, les forêts et même les roches, les montagnes et les eaux suivent le son de sa lyre. La légende a ainsi trouvé à exprimer de façon simple et grandiose la force inductrice de la musique à laquelle la nature entière, animée ou inanimée, est soumise.
Un danseur, c'est quoi ? Un danseur, c'est une histoire de centre de gravité. Une histoire de centre de gravité. Le centre de gravité, c'est le mouvement. On pourrait définir le mouvement par le parcours ordinaire du centre de gravité. Ce qui définit le mouvement, c'est les lois dues à la gravité. Les parcours ordinaires et les latitudes de la gravité, c'est le mouvement. Si vous voulez danser, il faut faire que votre centre de gravité s'enfonce dans votre corps comme une balle de fusil ou comme un fil à plomb vous lâche. À ce moment-là, de votre corps naît un danseur. Il y a une autre méthode, faire flotter le centre de gravité autour de vous, ou du moins au pourtour, à la limite de vous et du monde extérieur.
Je me rendais aux eaux de Central Park et m'installais sur un banc en face d'un lion dans sa cage. Il marchait sans cesse d'un côté à l'autre de la cage, refaisant éternellement les mêmes pas, quatre dans un sens, quatre dans l'autre, avec un mouvement merveilleux pour se retourner. Je passais des heures à regarder ce lion aller et venir dans sa cage à grands pas silencieux. J'ai fini par apprendre à marcher comme lui. J'ai appris du lion l'inévitabilité du retour, le balancement du poids du corps. Le balancement du poids est l'un des aspects clés de cette technique, de cette façon de se mouvoir. À cette époque, je n'avais pas de technique à proprement parler. Mais dans la technique que j'allais élaborer par la suite, le poids est balancé de cette façon étrange, animale, qui différencie du ballet la danse contemporaine. Ce balancement du poids est la clé du mouvement. En un sens, nous avons perdu cette qualité animale à cause de notre sentiment de sécurité, mais à l'instar des animaux, notre corps doit être capable de passer d'une position à une autre. Des années plus tard, je me suis souvenu de ce lion et de sa façon étrange et puissante de se mouvoir.
Anne Boissière, j'ai lu un extrait donc, des formes du spartial d'Erwin Strauss, que vous avez cité à l'instant. Puis on a entendu une archive de Gilles Deleuze, c'était dans son cours « Vérité et temps sur le cinéma » à Vincennes, qui date de 84, dans lequel il précise ce que c'est que danser. Danser, dit-il, c'est perdre le sens de gravité, c'est-à-dire faire sortir le corps du cours ordinaire du mouvement. Et juste après, on a entendu un extrait lu par Jean-Louis Jacopin de Martha Graham. C'était ses mémoires de la danse qui datent de 91, dans lequel elle dit s'être inspirée du mouvement animal de balancier d'un lion dans sa cage. Et on va revenir à ce que disait Erwin Strauss, dans le sens où, dans le texte que j'ai lu, il dit que la musique instaure un espace. Et en fait, cet espace, ça va être celui dans lequel va se développer la danse. Mais une certaine danse, certains mouvements dansés, c'est-à-dire des mouvements qui ne sont pas finalisés, qui ne sont pas directionnels, qui ne sont pas les mouvements ordinaires, mais qui sont des mouvements presque animaux, comme celui du lion dans sa cage, ou comme celui dont parle Deleuze quand on a perdu le sens de la gravité.
Oui, d'abord je voulais vous remercier pour le choix de cet extrait d'Erwin Strauss, parce que je trouve que c'est extrêmement bien vu, enfin, c'est un très beau texte, donc merci beaucoup. Voilà, je trouve que c'est un très beau texte parce que il me semble que dans ces quelques lignes que vous avez lues, il y a en effet une sorte de condensé de la pensée d'Erwin Strauss à plusieurs titres. Donc, je vais essayer de reprendre ces points rapidement, bien sûr. Le premier, oui, c'est la musique. C'est-à-dire que ce qui est passionnant dans ce texte d'Erwin Strauss, mais ce qui est aussi très, très difficile à analyser et à expliquer, parce que là, on est dans des zones d'explicitation quand même très, très délicates, et parfois on achoppe un tout petit peu aussi sur une argumentation qui est très assez coriace hein, chez Erwin Strauss. Hein, donc, ce n'est pas un texte forcément très facile, mais il y a cette idée extrêmement belle que, effectivement, la musique ouvre un espace. Alors, ça, c'est une idée passionnante. Pourquoi ? Parce que on a plutôt tendance à mettre la musique du côté du temps. Et en effet, la musique, c'est un art du temps. Mais c'est aussi, en tous les cas, dans ce qu'on peut appeler la musique en tant qu'elle est vécue, eh bien, la musique nous donne une spatialité d'un type très, très particulier. Et ce qui me passionne, moi, dans ce texte d'Erwin Strauss, qui s'intitule justement « Les formes du spatial », c'est que cette spatialité, chez Strauss, elle est pensée d'une façon qui est totalement nouvelle, selon moi, en regard, justement, de la musique et de la musique vécue. Voilà. Alors, évidemment, quand on dit musique, il y a musique et musique. Alors là, c'est le deuxième point qui me semble aussi important à noter, c'est que, évidemment, il ne s'agit pas de la musique, disons, de son époque, il ne s'agit pas de la musique contemporaine, hein, qui irait plutôt, disons, à rebours hein, de ce que Erwin Strauss essaie de penser, lui, à travers la musique. Mais il y a l'effort chez lui, chez Erwin Strauss, de dégager dans la musique l'élément d'un dynamisme qui fait qu'à l'écoute, la musique, en effet, nous fait sortir de nous. Enfin, là, il y a quelque chose dans la musique qui est de l'ordre du... Alors, peut-être pour reprendre cette idée d'animalité, quelque chose qui serait de l'ordre du bon, du se mouvoir. Et c'est cette impulsion extraordinaire qui nous est donnée, pas par toute musique. Je pense qu'il y aurait un travail à faire sur la manière justement dont l'évolution de la musique au XXe siècle se sépare de cette dimension, enfin en tous les cas dans un certain moment de son histoire. Mais il y a quelque chose là qui a beaucoup intéressé Erwin Strauss, c'est qu'il a essayé de penser sous le terme de rythme. Voilà. Donc la notion de rythme ici, elle est très intéressante, en même temps elle est très compliquée aussi. C'est ce point d'articulation entre musique et danse, donc non pas entre la musique comme art et la danse comme art, mais un point d'articulation où, comme Strauss le dit, musique et danse ne font plus qu'un, et ce ne font plus qu'un est pensé sous le terme de rythme. Voilà. Donc en fait, Strauss ne pense ni la musique vraiment, ni la danse vraiment en tant qu'art, mais il se situe à ce point de jonction très délicat, très intéressant, et qu'il aborde lui en des termes dits phénoménologiques, où effectivement, c'est le rythme dans ce que le rythme nous donne comme impulsion au mouvement, et cette impulsion au mouvement ne peut pas être pensée indépendamment de l'ouverture d'un espace très particulier, ouverture qui n'est pas forcément de l'ordre de l'observation. Enfin, bien sûr, il y a un mouvement des corps, mais au fond, ce qui est important, c'est l'impulsion telle qu'elle est ressentie et telle qu'elle permet justement le déploiement d'un mouvement qui est à la fois un mouvement externe, mais aussi un mouvement, si je puis dire, interne, bien que le rapport ici entre l'intérieur et l'extérieur ne soit plus vraiment très, très pertinent. Et peut-être une dernière chose que je voudrais dire là pour Erwin Strauss, parce que ça me semble important. Ce qui est assez troublant en même temps dans cette approche des formes du spatial, qui est un texte de 1930, c'est la manière aussi dont Erwin Strauss se départit, si je puis dire, de l'évolution de la danse de son temps, c'est-à-dire qu'il met à distance une danse qu'il appelle sans musique et qui, malgré tout, constitue la grande part aussi de l'évolution de l'art de son époque. Donc, je pense que c'est intéressant. Enfin, c'est une chose que je comprends mieux maintenant dans mon travail aussi sur Erwin Strauss, c'est que Erwin Strauss nous permet de penser certains aspects du rythme, de la musique et du mouvement, mais il y a aussi des limites dans sa pensée qui sont liées au fait que son approche ne rencontre pas forcément certains aspects de l'évolution de la musique comme art de son époque et de la danse comme art de son époque.
Parce qu'à l'époque, c'était l'émergence de la danse moderne, notamment avec Rudolf Laban, qui lui a développé une musicalité immanente à la danse. Donc il n'y a pas, même si Strauss pose le lien intrinsèque entre musique et danse, il y a quand même aussi ce courant à l'époque d'Erwin Strauss qui, à l'inverse, pense la musique et la danse non pas dans un lien intrinsèque, mais une musicalité propre à la danse elle-même qu'elle développerait indépendamment de la musique. Alors comment Erwin Strauss peut, quelle est la véritable distinction entre musicalité inhérente à la danse et de l'autre lien intrinsèque entre musique et danse, entre sentir et mouvement avec Erwin Strauss?
Je crois que cette jonction dont vous parlez, qui est très, très importante pour penser l'histoire de la danse au XXe siècle, entre musique et danse, et dans cet affranchissement des danseurs vis-à-vis, en tous les cas, de la musique, enfin, il y a une sorte de divergence grande entre, d'un côté, l'évolution de la musique, en tous les cas de la musique savante, qui, si je puis dire, devient de moins en moins dansée, enfin, par ses formes rythmiques, très difficile de danser sur une musique. En tous les cas, là, il y aurait un travail à faire probablement assez intéressant et précis. Et puis, de l'autre, donc, une danse, effectivement, qui revendique toujours davantage de s'émanciper en tous les cas de la musique et de trouver effectivement une propre musicalité qui est liée à des formes d'écoute, qui est liée donc à un rapport d'espace et de temps qui est construit par le danseur lui-même. Alors là, je pense qu'il y aura des travaux effectivement à élaborer, sachant que le terme de musique est aussi très très large et qu'on entend sous ce terme de musique finalement des choses qui peuvent être très différentes, musique intérieure, musique comme œuvre, le rythme, enfin voilà, il y a aussi, c'est un terme très très large.
Il y a donc, comme en parle Rudolf Labanne, une musicalité propre au corps, et c'est cette musicalité-là aussi que détecte Martha Graham dans le texte qu'on a entendu. Et on peut aussi rapprocher Martha Graham de la pensée d'Erwin Strauss, parce qu'il y a un certain naturalisme dans l'approche du mouvement et dans l'approche de la danse par Erwin Strauss, à savoir qu'il évacue complètement la dimension chorégraphique purement spatiale de la danse. Et à cet égard, on peut lui faire cette objection-là de si on pense la danse uniquement en termes naturalistes, spontanés, on évacue aussi toute une dimension de la danse qui est aussi à prendre en compte quand on veut faire une philosophie de la danse, à savoir sa dimension technique, sa dimension chorégraphique, sa dimension spatiale, justement.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que Erwin Strauss ne nous donne pas les moyens de construire, enfin directement en tous les cas, une philosophie de la danse. Parce que Erwin Strauss, enfin ça c'est un aspect que j'ai essayé de développer, de préciser dans les quelques pages que j'ai consacrées à Erwin Strauss dans mon livre Musique-Mouvement, dans les formes du spatial, Erwin Strauss propose d'élaborer une psychologie du mouvement, donc psychologie phénoménologique, qui est, si je puis dire, en deçà de la danse dans son histoire, dans ses formes chorégraphiques. Et en effet, s'il y a danse chez Erwin Strauss, c'est une danse qui n'est pas qui n'appartient pas à l'histoire des formes de la danse et qui n'appartient pas à la chorégraphie. Donc je crois que c'est très important en effet de distinguer ce mouvement, donc ce mouvoir qui définit en des termes phénoménologiques une expérience vivante de l'espace, puisque c'est le propos d'Erwin Strauss, mais c'est une expérience qui n'appartient pas là aux danseurs, et enfin forcément aux danseurs en tant que tels. Voilà,
elle appartient à tous ceux qui peuvent danser, à tous ceux qui remuent en rythme dès qu'ils entendent un petit peu de musique.
Enfin voilà, c'est le bondissement. Enfin, dans certains textes, Erwin Strauss dit que l'expérience dont il essaie de parler, au fond, elle est commune à tout être humain. C'est une expérience que l'on perd peut-être en grandissant, mais c'est une expérience qui serait celle, oui, d'un se mouvoir qui serait, oui, une sorte de, ouais, le bondissement, c'est-à-dire voilà, c'est un mouvement qui effectivement ne demande pas de technicité en soi et qui n'est pas le privilège des techniciens, enfin si je puis dire, voilà.
Dans l'espace optique, nous réalisons nos buts, nous y vivons l'histoire de notre vie. Dans l'espace acoustique, nous ne vivons que le présent. Nous oublions le passé et l'avenir. Nous n'y réalisons rien de concret et nous n'exprimons que l'union qui existe entre nous et le monde ambiant. Dans la danse, le processus historique ne progresse pas. Le danseur s'arrache au flux du devenir historique. Son vivre est un être présent qui ne renvoie à aucune conclusion dans l'avenir et qui pour cette raison n'est pas limité dans l'espace ou le temps. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h30 et nous parlons aujourd'hui du mouvement de la danse, rythme, musique, geste, espace, en compagnie d'Anne Boissière, auteur notamment de Musique Mouvement paru cette année aux éditions Manutius. Anne Boissière qui a coédité Vie, Symbole, Mouvement, Suzanne Linguer et la danse, disponible aux éditions de l'Incidence, donc coédité avec Mathieu Duplay, et enfin d'un ouvrage collectif avec Catherine Kinsler, Approche philosophique du geste dansé, de l'improvisation à la performance, disponible aux presses universitaires du Septentrion. Anne Boissière, j'ai lu encore un extrait des formes du spatial d'Erwin Strauss, un extrait dans lequel Erwin Strauss distingue d'un côté l'espace optique et de l'autre l'espace acoustique. Et justement, juste après, on entend en ce moment même un extrait du court-métrage suédois réalisé en 2001 par Ola Simonsson et Johannes Nilsson qui s'appelle Music for One Apartment and Six Drummers, pardon pour l'accent anglais, dans lequel en fait une cuisine est transformée complètement, on va dire, ce lieu en fait d'utilité, de fonction en fait, est complètement aboli, évacué pour devenir un espace de création sonore. Et c'est exactement ce qu'Erwin Strauss décrit avec la danse, avec la musique qui instaure un espace, celui de la danse, à savoir que l'espace tout à coup est nettoyé en fait d'espèces de hiérarchie, de fonctionnalité pour devenir un espace homogène dans le cœur, dans lequel le danseur peut évoluer.
Oui, tout à fait. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que chez Strauss, il y a l'effort pour proposer une distinction entre les sens. C'est-à-dire que même s'il accepterait l'idée qu'il y a des formes de synesthésie, il y a l'effort de sa part de déterminer l'ouïe et l'acoustique comme étant un sens, comme définissant les modalités d'une sensorialité qui, disons, a ses lois spécifiques par rapport à la vision. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et c'est à partir de là, en effet, que Strauss tente de définir les formes d'une spatialité qui serait, si je puis dire, ordonnée à l'écoute et ordonnée au son, et plus précisément à l'emprise du son. Et il me semble que ce qu'il essaie de dire, c'est que le mouvement spontané, justement, c'est un mouvement qui, en réalité, ne surgit pas de rien, mais qui est en quelque sorte, alors je vais dire une sorte de réponse, enfin, bien que le terme là ne soit pas forcément tout à fait juste, mais à ce que le son nous fait. Alors quand on dit le son, il faudrait peut-être réintroduire ici la notion de rythme ou prendre le temps de préciser la manière dont Strauss propose une approche, disons, phénoménologique en fait du son, enfin ce qu'il appelle le ton, c'est-à-dire c'est un son qui serait débarrassé de toute référence à l'objectivité du monde. Donc c'est vraiment la pure, comment dire, le pur son, et c'est dans cette dimension probablement très très archaïque que Strauss pense les modalités justement d'un se mouvoir.
Mais c'est exactement ce qu'on entend dans le court-métrage où les objets d'une cuisine sont transformés ne sont plus des objets justement, mais deviennent des sons.
des sons et dans lesquels justement les modalités d'une vibration donneraient en tous les cas possibilité à des mouvements de s'effectuer ou de se déployer d'une manière autrement impossible. Alors en même temps, bon, cette spatialité, je crois qu'elle s'éprouve davantage qu'elle se l'a encore, qu'elle se voit ou qu'elle est-ce qu'on est toujours dans
Mais si sûr que ça, que la spatialité s'éprouve plus qu'elle ne se voit, parce que dans le cas par exemple de la danse, Erwin Strauss a beau distinguer d'un côté espace optique qui se voit, espace investi de fonctions comme la cuisine dans lequel je vais me faire cuire un œuf par exemple, et de l'autre côté l'espace acoustique, celui du son pur ou l'espace dans lequel je danse, on peut se rendre compte quand même que la danse vient unir ces deux dimensions-là de l'espace. Finalement, la danse, elle va faire quelque chose qui est intéressant, c'est qu'elle va débarrasser l'espace aussi de sa fonctionnalité tout en restant quelque chose d'optique. On pourrait aussi objecter ça, je trouve, c'est que la danse vient combiner espace optique et espace acoustique.
Oui, tout à fait. Enfin, là, je crois que Strauss ne dirait pas, ne s'opposerait pas à votre proposition. Disons que là, dans le cadre de son argumentation, la notion d'espace acoustique vient rendre compte de cette définition du mouvement qu'il essaie de promouvoir d'une façon précise dans son texte et qui, justement, est liée à se mouvoir. Et ce mouvoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il définit pour Strauss les modalités, d'un être au monde qui, en fait, n'est pas simplement corporel, mais qui... Alors, c'est là où les choses sont un petit peu compliquées et on revient aux deux définitions du mouvement que vous proposiez en début d'émission. C'est-à-dire que là, ce que dit Strauss, c'est que ce mouvement-là ouvre une spatialité dans la mesure où, pour celui qui est dans le vécu du mouvement, il y a la dimension d'une vie autrement impossible. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que c'est à ce niveau-là que on est dans l'acoustique plutôt que dans l'optique. Voilà.
C'est la continuité indivisible de changement qui constitue la durée vraie. La durée réelle est ce que l'on a toujours appelé le temps, mais le temps perçu comme indivisible. Quand nous écoutons une mélodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous puissions avoir, et pourtant, c'est la continuité de la mélodie et l'impossibilité de la décomposer qui font sur nous cette impression. Si nous la découpons en notes distinctes, en autant d'avant et d'après qu'il nous plaît, c'est que nous y mêlons des images spatiales et que nous imprégnons la succession de simultanéité. Nous n'avons aucun intérêt à écouter le bourdonnement ininterrompu de la vie profonde, et pourtant, la durée réelle est là. Anne Boissière, je viens juste de lire d'Henri Bergson La perception du changement, dans lequel il explique sa notion de durée vraie, et on peut appliquer cette définition-là, où il passe en fait d'un temps qui serait découpable en avant et en après dans une mélodie, à une impression, à une écoute de la mélodie, où là on est dans le temps, on est dans la durée, c'est-à-dire dans le temps indivisible, non spatialisable, non découpable en avant et en après. Et on pourrait voir aussi dans l'espace acoustique de Strauss et dans l'espace de la danse, on pourrait aussi penser cette idée d'un espace qui ne serait plus paradoxalement localisable, un espace qui ne serait plus spatialisable. Finalement, le mouvement de la danse, c'est effectivement non plus seulement un déplacement, mais on peut être qu'on touche là le deuxième sens du mouvement de la danse, à savoir un mouvement qui ne serait pas observable, mais un mouvement qui serait indivisible de l'ordre, et d'ailleurs on peut se servir des termes d'Henri Bergson dans ce texte, de l'ordre de la vie profonde, du bourdonnement ininterrompu de la vie profonde, Anne Boissière.
Oui, je trouve que votre rapprochement avec Bergson est très intéressant et très riche, et je pense qu'il mériterait d'ailleurs d'être développé, enfin, par un travail, hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors évidemment, la notion de mélodie ici, elle est intéressante, en même temps elle est métaphorique, hein, quand même, chez Bergson. Et puis, Bergson a promu une définition du temps comme durée, si je puis dire, contre l'espace. Et il y a pas véritablement de travail chez lui en direction d'une conception de l'espace qui pourrait
réhabiliter, au contraire,
qui pourrait justement rencontrer cette idée de durée. Mais je crois qu'il y a chez Bergson toute une réflexion sur ce qu'il appelle le sentiment rythmique, qui pourrait être reprise pour justement peut-être rencontrer certains aspects de la pensée d'Erwin Strauss. Et surtout, cette remarque de Bergson m'évoque Bachelard qui s'est beaucoup intéressé à la pensée de Bergson, même s'il s'en est démarqué, et qui, dans son livre L'air et les songes, qui est un livre assez formidable, qui s'intitule justement Essai sur l'imagination du mouvement, Bachelard fait une différence très intéressante entre le cinématique et le dynamique. Et il me semble que ce qu'on essaie d'attraper là, c'est une pensée du dynamique. Et alors, avec le cinématique, on est dans un mouvement, si vous voulez, de l'extérieur, on est en tant qu'observateur du mouvement. Et là, on peut complexifier cette notion de mouvement, mais si vous voulez, on va être toujours dans des formes de déplacement, si je puis dire. Alors que le dynamique, c'est le mouvement en tant qu'il est vécu et qu'il emporte avec lui quelque chose qui, justement, relèverait peut-être davantage de ce que Bergson, lui, comprend sous le terme de durée et ce qu'il peut essayer de nous donner à penser justement avec peut-être avec la musique.
Vous venez de parler de dynamique et c'est la philosophe Susan Langer qui a développé l'idée d'image dynamique. On en entend un extrait lu par Jean-Louis Jacopin maintenant.
Qu'est-ce que la danse ? La danse est une apparence, une apparition. Elle émane de ce que font les danseurs, et pourtant, c'est autre chose. Quand vous regardez une danse, vous ne voyez pas ce qui est devant vous, des gens qui courent de tous côtés ou qui agitent leur corps. Ce que vous voyez, c'est un déploiement de forces en interaction par lesquelles la danse semble être soulevée, poussée, tirée, arrêtée ou ralentie, qu'elle soit solo ou ensemble, tournoyante comme à la fin d'une danse de derviche ou lente, centrée sur elle-même en un unique mouvement. Un seul corps humain peut déployer devant vous le jeu entier des puissances mystérieuses. Toutefois, ces puissances, ces forces qui semblent opérer dans la danse ne sont pas les forces physiques des muscles du danseur qui sont la cause effective des mouvements en question. Les forces que nous semblons percevoir le plus directement sont créées pour notre perception et elles n'existent que pour elles. Tout ce qui existe seulement pour la perception et ne joue aucun rôle passif dans la nature comme le font les objets usuels est une entité virtuelle. Ce n'est pas irréel. Quand vous y êtes confronté, vous le percevez réellement, et vous n'êtes pas dans le domaine du rêve ou de l'imagination. Ce que les danseurs créent est une danse, et une danse est une apparition de puissance active, une image dynamique. Tout ce que fait effectivement un danseur sert à créer ce que nous voyons réellement, mais ce que nous voyons réellement est une entité virtuelle.
5 et 6 et 7 et 8, saut de chat, soutenu Véronique. Chassé, tanglier. Bon, très pas mal. Véronique, le regard, on fixe un point, pas les petits yeux qui tournent en rond dans tous les sens, là, ça ne va pas ça. Allez, on reprend.
Anne Boissière, on vient d'entendre un extrait de l'image dynamique, quelques réflexions philosophiques sur la danse de Susan Langer. Et dans ce texte, donc, il faut d'abord présenter Susan Langer. C'est une philosophe américaine d'esthétique analytique, philosophe de l'esprit qui a développé toute une ontologie de la danse. Elle a écrit notamment deux ouvrages, Problems of Art qui est paru en 1957 et Feeling and Form en 1953. Et on retrouve cette idée donc, dans le texte, il est bien dit l'expression d'image dynamique. Et ce qui est intéressant plus précisément dans ce texte, c'est qu'on entend la série d'oppositions entre image et dynamique, quelque chose de figé, en fait quelque chose de mouvement, quelque chose qui serait en mouvement. On entend virtuel, réel, puissance, actif. Et toutes ces oppositions, en fait, la danse les abolit pour les fusionner d'une certaine manière. En fait, la danse, qui serait une sorte de jeu temporel de figures, ne serait pas en fait une succession de figures arrêtées, comme on l'a avec le temps spatialisé de Bergson, mais serait en fait une fusion des aspects à la fois temporels et spatiaux. Anne Boissière.
Oui, alors bon, disons que il faut reconnaître à Susan Langer d'avoir très tôt réfléchi à la danse dans le cadre d'une philosophie qui est, on va dire, du symbolique. Hein. Je crois qu'il faut peut-être préférer ce terme à l'idée de philosophie analytique, parce que ça risque d'introduire de la confusion. Et en effet, Suzanne Langer va essayer de réfléchir à l'art en faisant de l'art un processus symbolique. Et un processus symbolique qu'elle va chercher à distinguer des symboles qu'elle qualifie de discursifs et qui nous conduiraient plutôt du côté du langage verbal. Elle va parler de l'art comme d'un symbole non discursif ou d'un symbole présentationnel. Pour dire que ce que l'art exprime, mais au sens non pas symptomatique de l'expression ou subjectif de l'expression, mais au sens logique de l'expression, ce que l'art exprime, donc, c'est ce qu'elle appelle le sentiment humain. En anglais, c'est « feeling », sachant que la notion de « feeling » chez elle a une acception qui n'est pas du tout commune et qui d'ailleurs serait plutôt de l'ordre d'un intraduisible. Le « feeling », c'est le sentiment, mais au sens où, dans ses derniers textes, le sentiment ouvre ce qu'elle appelle une philosophie de l'esprit. Donc, vous voyez, c'est très, les choses sont très, très compliquées et très, très nuancées. Alors, pour ce qui est de la danse en particulier, en effet, Suzanne Langer va tenter de montrer que ce qui s'exprime dans la danse, hein, ce sont des dynamismes, mais des dynamismes qui ne sont pas les dynamismes, si je puis dire, corporels ou tout au moins immédiatement.
C'est ça, la dimension voilà, musculaire, elle est complètement...
Disons qu'elle elle existe, ça, mais comme dans tout art, il y a une matérialité, comme le peintre a
avec
affaire effectivement à des toiles, voilà, à des couleurs, à des pigments, etc. Et ça, bien sûr, ça existe. Mais l'effort philosophique de Suzanne Langer, c'est de nous expliquer que ce que crée l'artiste, le danseur ou le peintre, eh bien, ne peut pas se laisser appréhender à partir de cette matérialité, bien qu'elle compte, évidemment, mais elle se laisse appréhender par ce qu'elle appelle ou à travers ce qu'elle appelle une illusion primaire. Alors, il y a plusieurs thèmes. Hein. Le terme en anglais, ce serait semblance, hein, c'est-à-dire c'est une sorte d'illusion, mais une illusion qui n'est pas, en quelque sorte, qui n'aura pas quelque chose de faux. C'est constitutif, voilà, de la forme symbolique qui serait celle de l'art. Et donc, Suzanne Langer va essayer de comprendre la danse à partir de là, donc comme l'image, alors l'image pas au sens du tout de l'imitation, mais au sens justement d'une illusion et d'une forme expressive, de puissance virtuelle et de dynamisme. Voilà, donc c'est une, évidemment, c'est une approche très originale.
Merci beaucoup Anne Boissière, j'étais ravie de discuter avec vous aujourd'hui du mouvement de la danse et notamment d'Erwin Strauss et un petit peu de Suzanne Langer, deux auteurs qu'on connaît trop peu. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Musique Mouvement qui est paru cette année aux éditions Manutius, que vous avez coédité avec Mathieu Duplay Vie, Symbole, Mouvement, Suzanne Langer et la danse qui est disponible aux éditions de l'Incidence et enfin que vous avez dirigé avec Catherine Skinsler l'ouvrage collectif Approche philosophique du geste dansé, de l'improvisation à la performance aux presses universitaires du Septentrion. Et c'est la fin des nouveaux chemins pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons demain pour la dernière émission déjà de cette semaine consacrée à la danse. Et demain, ce sera Frédéric Pouillot qui viendra nous parler du désœuvrement chorégraphique.
J'aime les gazettes de tout l'univers. C'est l'authentique King Julian qui te l'explique. J'aime les gazelles et les gazous qui bougent leur anatomie. Faut la bouger l'anatomie. Tu la bouges jolie, gentille, pas trop polie.
Et si d'ici demain, vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et surtout, vous pourrez l'écouter en ligne pendant 1000 jours et la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, pendant un an. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour et aussi des vidéos de danse cette semaine qu'ils adorent tout particulièrement.